Rebonjour Margot.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Margot.
On vous retrouve pour ce On en parle dans la presse et sur les réseaux sociaux. Vive la fin de l'été. Et oui, c'est surprenant, mais c'est un petit peu ce que nous raconte Libération aujourd'hui. Ah bah oui. Ça c'est les vacances. Les bronzés font du ski, oui.
Et oui, mythique. Bah non, Benjamin, les bronzés ne font pas du ski, les bronzés font du souci, titre Libération ce matin. La France, première destination touristique mondiale, voit affluer les visiteurs au détriment des habitants qui subissent nuisances et hausse des coûts de l'immobilier. Alors même s'il constitue un revenu majeur pour notre pays, le tourisme est aussi une source de problèmes, s'alarme Le Quotidien. Ouais. Paris place 3 de ses musées parmi les 20 les plus fréquentés au monde. Avec 10,2 millions de visiteurs, le Louvre reste le leader mondial, avec une fréquentation 40 fois supérieure à celle du MoMA de New York. Mais ces recettes générées par près de 89 millions de visiteurs ne sont pas non plus sans conséquence dans la vie quotidienne des habitants vivant dans les zones les plus visitées, comme à Paris ou sur la Côte d'Azur. Les loyers augmentent, le temps de voiture pour les petits trajets aussi.
Oui, forcément. Et la
route l'été de Sainte-Maxime à Saint-Tropez, par exemple, serait quasi impraticable aux heures de pointe. Il faut parfois jusqu'à 1h30 pour parcourir seulement 15 petits kilomètres. Dans le centre de la capitale parisienne, l'offre de logements type Airbnb s'oriente vers les touristes. Les résidents à côté sont dérangés sans cesse par les va-et-vint des uns et des autres tout au long de la journée.
Ça fait moins de logements aussi pour les Parisiens.
Et puis c'est ça exactement. Dans différents pays, gouvernements et municipalités tentent de mettre en place des mesures contre la démesure touristique justement. Des solutions existent. Interdiction d'accéder à certains sites pour les touristes, déterminer une limitation du nombre de jours passés en vacances sur le territoire ou encore établir des amendes pour non-respect des règles de bonne conduite. Une chose est sûre, Benjamin, c'est que c'est un sujet que prennent à bras-le-corps les candidats aux municipales, car une forme de ras-le-bol est en train de se créer.
Ouais, ouais, les municipales se rapprochent aussi. Ah bah oui, ça fait de l'argent
vous
quand
imaginez,
même.
Vous imaginez, Tourist Gaume.
Oui.
On s'en sort plus.
Régulation peut-être.
On s'en sort plus. Allez, autre sujet, cette lubie qui revient sur la table. Une nouvelle fois, Donald Trump n'en déborde pas. Il veut acheter le Groenland. Margot, est-ce que c'est possible?
Alors, pour les États-Unis, ce serait sympa si je reprends les mots de Donald Trump. Dans les faits, oui, les États-Unis pourraient légalement racheter ce territoire danois, sauf que, et c'est là que le bât blesse, le Groenland
n'est pas à vendre.
Voilà, Groenland n'est pas à vendre. Le gouvernement danois et le Groenland s'opposent à un quelconque rachat de l'île arctique qui compte plus de 56 000 habitants. Mais alors pourquoi Donald Trump s'intéresse-t-il de si près au Groenland? Ce n'est pas anodin.
Bah
avec le réchauffement climatique, la banquise a diminué, laissant un accès plus facile aux sources tant convoitées comme le pétrole, l'or ou encore l'uranium.
Ça rapporte de l'argent. Hein.
Et
ça
Donald Trump y voit effectivement un placement économique important, comme le rapporte le Wall Street Journal. Pour le moment, le Danemark s'est dit seulement prêt à faire des affaires. Mais l'histoire, je pense, est loin d'être terminée.
Et c'est pas la première fois, Margot, justement, qu'un président s'intéresse au Groenland, un président américain.
C'est vrai, il n'est pas le seul. Harry Truman, ancien président des États-Unis, aurait lui aussi fait ses propres négociations en 1946. Il avait proposé un chèque de 100 millions de dollars, mais sans succès.
Il faudra proposer peut-être des milliards. Bon, on enchaîne avec un drame. Rarissime, Margot. C'est un homme âgé d'une quarantaine d'années qui a été tué par un grizzly. Ça s'est passé au nord-ouest du Canada.
Oui, véridique. Depuis le 1er août, Julien, 44 ans, compositeur et réalisateur, avait entrepris avec une amie de réaliser un de ses rêves. Oui. Faire la traversée du fleuve Mackenzie en autonomie à bord d'un canoë-kayak et de montrer aussi dans un même temps son projet de création musicale qu'il souhaitait exposer à Paris. Malheureusement, il a été surpris en plein sommeil par un grizzly qui l'aurait saisi par le cou et l'épaule avant de l'emmener dans la forêt pour le blesser mortellement. Déjà sur Facebook, il donnait des nouvelles sur l'avancée de son périple dans un post qui, rétrospectivement, trouve un écho particulier. Il écrivait déjà « 5 jours de canoë et de camping sauvage, dont 3 jours sans avoir croisé une âme qui vive, à part 4 ours, une quantité d'oiseaux en tout genre et une trace de loup. » Il faut savoir que les attaques d'ours sont peu fréquentes, mais médiatisées, comme le rapportent ce matin nos confrères du Parisien. Il y a un an, une femme et son bébé ont été tués par un grizzly dans le Yukon, au nord-ouest du Canada.
Mais c'est des histoires qui, effectivement, arrivent rarement. Et il faut le préciser, bien sûr. À Hong Kong, les réseaux sociaux ont été utilisés utilisé par Pékin contre les manifestants. C'est ce qu'on apprend ce matin, Margot.
Effectivement, la Chine ne déploie pas seulement d'importants moyens militaires contre le camp pro-démocratie. Les autorités chinoises emploient aussi les réseaux sociaux comme arme puissante. Le gouvernement aurait créé de nombreux comptes pour diviser les militants. L'impact de cette propagande reste difficile à quantifier. Mais Twitter parle pour le moment de 936 comptes suspendus et Facebook, pour sa part, dit avoir supprimé 7 pages. 5 comptes et 3 groupes du réseau social qui étaient aussi liés à des individus associés au gouvernement de Pékin. Ils étaient suivis par environ 15 500 personnes.
Et l'utilisation des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est une inquiétude aussi de la part des États, comme on le voit ici à Hong Kong, avec cette utilisation de Pékin des réseaux sociaux. Allez, tout de suite, on poursuit notre revue de presse. On s'arrête du côté de Midi Libre pour voir ce qu'il y a en une aujourd'hui avec Éric Marty. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Midi Libre avec cette une sur les jet skis, ces scooters des mers, qui présentent aussi des risques forcément pour la sécurité en cette période de vacances, Éric Marty.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de loueurs sur le littoral et beaucoup de gens qui en font, puisque c'est une activité assez ludique l'été et très prisée. Et on s'est intéressé justement au côté réglementation et au côté encadrement de l'activité, avec en filigrane un accident assez rarissime qui a eu lieu jeudi au large de Marseillac.
Qu'est-ce qui s'est passé justement? Racontez-nous.
Alors, sur les circonstances exactes, on en sait peu pour l'instant, mais il y a une enquête qui est ouverte, mais il y a une collision entre deux engins et puis quelqu'un qui est malheureusement décédé, et c'est le côté rarissime de la chose. Ça arrive très 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 peu souvent, ce genre d'accident mortel sur ces engins.
Et ce qui est étonnant, c'est toutes les règles finalement qu'on apprend à travers justement votre article. Exactement. Puisque on a l'impression que c'est facile, qu'on peut en faire pendant les vacances comme ça, mais il y a vraiment une réglementation très très strict.
C'est ça, ce sont des engins qui au début étaient un peu pouvaient apporter une certaine crainte sur la puissance, etc. Puis le fait que ça se soit démocratisé, beaucoup de gens en font. Il y a des règles assez strictes d'encadrement par la direction des territoires de la mer, et puis surtout par les loueurs et les professionnels qui font très attention à la sécurité des gens, à la sécurité des gens qui sont autour, puisqu'il n'y a pas que les jet skis, il y a ceux qui pratiquent la mer, les plaisanciers, etc. Donc il y a un encadrement qui est assez strict et qui n'évite pas peut-être tous les accidents, mais qui en évite, je pense, un certain nombre. Ouais.
Ouais, d'autant qu'il faut, on le rappelle, il faut un permis plaisance pour conduire ces scooters des mers ou être accompagné d'un moniteur diplômé. On retrouve aussi un témoignage dans Midi Libre ce matin. C'est la suite de l'accident qui avait eu à Collioure avec ce feu d'artifice le week-end dernier, avec une audoise qui témoigne justement de ce qui s'est passé le week-end dernier.
C'est ça, c'est un article qu'on a récupéré depuis nos amis de l'Indépendant qui ont été faire un sujet là-dessus. Et effectivement, la dame, ce sont deux amis qui étaient au feu d'artifice ce soir-là sur la plage et qui racontent un petit peu comment ça s'est passé. Elles étaient dans la foule, une fusée est partie et puis une des dames a été gravement brûlée avec les éclats du feu d'artifice qui est tombé sur la foule, qui a fait comme vous l'avez rappelé, 13 blessés ce soir-là.
Merci beaucoup, Éric Marty, de nous avoir présenté votre une de Midi Libre. Donc, Midi Libre à retrouver ce matin, bien sûr, dans vos casques. Et merci d'avoir expliqué ce qu'on pouvait y trouver ce matin. Allez, dans un instant, on va faire notre tournée des campings, Billy, avec un camping du côté de la Haute-Garonne ce matin.
Nous serons à Puy-Ségur, en Occitanie, et je vous promets que nous allons camper entre un bord d'étang et regarder les étoiles au milieu et au cœur d'une forêt. C'est pas mal.
Ça nous fait rêver déjà. Allez, 8h43 sur Sud Radio. Très bon début de journée à vous. Dans quelques instants, on aura aussi Cécile Tardy, notre coach de vie, qui viendra nous expliquer que la confiance, c'est comme un muscle. Ça se travaille. Dans Mieux dans ma vie, on va faire des abdos de confiance en soi. Ça va faire du bien. Allez, à tout de suite. Restez bien avec nous.